Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flashback sur Séance Radio.
Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran.
Toute l'actu des grands classiques du cinéma.
Bientôt, les films vont être sonorisés.
Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien.
Je ne sais pas si vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill.
Flashback sur Séance Radio.
Ça, c'est le cinéma.
Bienvenue dans Flashback, votre émission mensuelle dédiée à l'actualité du cinéma classique qui propose, mon cher Antoine, un programme de choix.
Oui, ce mois-ci, on a vraiment un programme formidable avec deux véritables poids lourds du cinéma qui vont intervenir dans Flashback.
En effet, pour ce sixième numéro, nous avons un invité exceptionnel, le cinéaste Costa Gavras, que nous avons rencontré lors du festival Premier Plan d'Angers à l'occasion de la sortie en DVD de ses 9 premiers longs-métrages. Autre personnalité de marque dans cette émission, le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, que nous aurons par téléphone pour la sortie de son documentaire consacré à l'œuvre des frères Lumière. Et puis nous ne pouvions pas passer à côté du grand favori des prochains Oscars, je veux bien sûr parler de La La Land de Damien Chazelle, hommage enchanté aux grandes comédies musicales. Antoine Cyr reviendra pour nous sur ces pépites qui ont marqué le cinéma hollywoodien. Mais avant cela Antoine, vous souhaitiez évoquer la disparition d'Emmanuelle Riva, qui s'est éteinte à l'âge de 89 ans.
Oui, Emmanuelle Riva avait une manière très personnelle d'incarner le mystère féminin. Elle avait été découverte au théâtre par Alain Resnais et elle fut donc la révélation de Hiroshima, mon amour, écrit avec Marguerite Duras. Ce film suit le trajet d'une comédienne venue à Hiroshima à la fin des années 50 pour tourner un film sur la paix et qui va rencontrer et qui va aimer de manière d'ailleurs absolument torride un Japonais et partager avec lui les récits croisés de leurs douloureuses expériences de la guerre. Donc finalement, ce film parle d'une époque qui est encore très présente à l'esprit de tout le monde, des Européens, des Asiatiques, et le succès va être immense. Mais pourtant, alors que ce film sort au début de la nouvelle vague, Emmanuelle Riva va rester à l'écart du noyau dur de cette nouvelle vague. Elle va jouer souvent au théâtre, mais elle va préférer des rôles difficiles, comme par exemple dans Le huitième jour de Marcel Hanoun, ou dans Léon Morin prêtre de Jean-Pierre Melville, où elle est cette femme qui se consume d'amour pour un curé incarné par Belmondo. Donc, elle reste pour beaucoup Thérèse d'Esquerou, l'héroïne frustrée de l'adaptation de Mauriac par Georges Franju. Elle n'a pas hésité à s'encanailler chez Mocky avant de jouer de manière bouleversante pour Philippe Garrel dans Liberté la nuit. Et puis, elle obtient le César en 2013 pour Amour, dont elle partage l'affiche avec Jean-Louis Trintignant. En recevant son prix, cette femme toute menue, déjà âgée à l'époque de 85 ans, va employer des mots pleins de passion pour ce film et pour son métier qu'elle aura pratiqué pendant 50 ans, sans jamais être dans la presse people, en cultivant un charme plein d'intelligence et de culture, mais sans jamais verser non plus dans le snobisme. Alors il y a beaucoup à redécouvrir d'Emmanuelle Riva, mais je voudrais dire que j'ai un coup de foudre pour un film qui est totalement oublié. Je suis sûr, Antoine, que celui-là, vous ne le connaissez pas, et
j'attends. Suspense.
Et pourtant, c'est vraiment un très très bon film. C'est un film qui s'appelle Le Gros Coup, alors qui a été tourné par Jean Valère, réalisateur qui est un peu oublié, mais qui a quand même tourné avec Gene Seberg, Marina Vladi, Micheline Prel, Monica Vitti. Donc vraiment un réalisateur qui savait filmer les femmes. Dans ce film, elle joue une vraie meurtrière qui a fomenté avec son amant l'assassinat de son mari. Elle a apparaît d'ailleurs dans le film en haut d'une véranda, à la manière de Barbara Stanwyck dans Assurance sur la mort, mais la ressemblance s'arrête là parce que le personnage d'Emmanuelle Riva, ben justement c'est Emmanuelle Riva, il est celui d'une femme dont le machiavélisme se teinte d'une espèce de détresse intérieure. Et pendant tout le film, on va se demander si elle est désespérée, matérialiste. Alors, ce qui est amusant, c'est que pour ce film, Valère avait essayé d'obtenir Brigitte Bardot. Ça n'a pas été possible. Finalement, Annie Girardot avait donné son accord. Au dernier moment, ça n'a pas été possible. Et c'est Emmanuel Riva qui est arrivé. Et là, ce qui est très curieux, c'est que du coup, ça a peut-être fait que le film a eu moins de célébrité, parce qu'évidemment, en termes d'aura publique, Emmanuel Riva n'était pas Brigitte Bardot. Et pourtant, le film est excellent et Emmanuel Riva, il donne une performance d'actrice que Brigitte Bardot aurait peut-être donné, mais peut-être pas avec cette intériorité et avec cette espèce de science du jeu qui était celle d'Emmanuel Riva.
Voilà, une actrice en effet rare mais précieuse. Merci Antoine. Et maintenant, on parle des ressorties. Parmi les ressorties de ce mois de février, débutons avec Love Streams, l'avant-dernier film de John Cassavetes, réalisé en 1984, qui est dans les salles depuis le 1er février. L'histoire d'une femme, campée bien sûr par Jenna Rollins, qui perd la garde de sa fille et va se réfugier chez un riche écrivain accro à la débauche, alors que le fils de ce dernier vient de lui être confié. Alors ce film est le dernier d'une série de chefs-d'œuvre, ou en tout cas de films majeurs avec Jenna Rollins, après évidemment Opening Night, Gloria, notamment où une femme sous influence. John Voight devait initialement jouer le rôle de cet homme, mais finalement il déclina, et c'est encore plus intéressant que ce soit John Cassavetes qui interprète cet écrivain totalement à bout de souffle, vu la nature réelle de la relation entre les deux protagonistes, que je ne révélerai sûrement pas, puisque c'est un espèce de suspense qui se fait au fur et à mesure du film. Le long métrage a été tourné dans la propre maison de Cassavetes, à Los Angeles. Et cette maison est filmée comme un tombeau crépusculaire bouleversé à un moment donné par une farandole d'animaux. Cassavetes filme crûment des êtres inadaptés au monde et il filme aussi l'inconséquence de ces deux personnages. Jenna Rollins a une belle réplique à un moment donné dans le film. Elle dit à propos des deux « On est un peu paumé, mais lui se débat plus que moi ». Et je trouve que c'est une phrase qui résume très bien le vide immense qui envahit ces personnages qui n'arrivent pas à s'aimer. Alors en effet, autant prévenir le spectateur, ça n'est pas un film aimable. D'ailleurs, à titre personnel, ça n'est pas mon préféré de Cassavetes. Je trouve qu'il y a plus de force, par exemple, dans Une femme sous influence. Mais c'est un film aussi qui souffre de quelques longueurs, mais qui est sans doute quand même comme l'un des films les plus intéressants, les plus introspectifs de Cassavetes. C'est son film testamentaire. Il n'avait que 54 ans à l'époque. Il mourra 5 ans plus tard. D'un cinéaste qui a toujours été farouchement indépendant, loin, très loin même des sirènes d'Hollywood. Il disait de ce film que c'était le plus triste qu'il ait réalisé. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur argument à donner pour aller découvrir Love Streams, mais en tout cas, le film montre évidemment la marque indélébile de Cassavetes sur le cinéma indépendant américain.
Love is a stream. Continuous. Doesn't stop.
This is your son. You haven't even seen your son since he was born.
Where are you?
Paris.
Where have you gone?
This is my son Albie from second marriage. I'm Al. I'm Robert Harmon.
Really?
Come on.
Dad, I love you.
Come on. Your love is too strong for your family.
I'm almost not crazy now.
I just don't care.
Deux longs métrages classiques du cinéma américain ressortent en salle. Du silence et des ombres de Robert Mulligan avec Gregory Peck, enfin To Kill a Mockingbird, moi je préfère toujours le titre original, réalisé en 1962, qui ressort en salle le 8 février, et Le Gouffre aux Chimères de Billy Wilder avec Kirk Douglas, réalisé en 1951. Antoine, deux faces très différente du rêve américain.
Oui, ce sont deux chefs-d'œuvre absolus, hein, ces deux films. Et alors, ce sont deux films qui sont emblématiques de l'œuvre de, justement, deux réalisateurs qui racontent l'Amérique et qui la racontent finalement chacun un peu à contre-temps. C'est-à-dire que Billy Wilder, dans les années 50, au moment où on se relève de la guerre, où tout le monde est assez euphorique, fait des films qui souvent mettent de gros gros bémols sur l'emballement du rêve américain. Et c'est évidemment le cas du Gouffre aux Chimères, avec Kirk Douglas dans le rôle d'un épouvantable reporter manipulateur. On va être vraiment dans, par avance, tous les excès de la société des médias, de la radio-réalité et de sa cruauté absolue, avec aussi une actrice que j'adore qui est Yann Sterling et qui est une grande égérie du film noir dans ce film.
Oui, juste pour les spectateurs qui n'auraient pas vu le film, rappelons très vite le pitch, hein, c'est l'histoire d'un journaliste sans scrupules qui découvre qu'un homme est coincé au fond d'une galerie effondrée et il va alors faire tout pour exploiter le scoop, quitte carrément à risquer sciemment la vie de cet homme. Hein.
Voilà, tout à fait. Donc on est dans les années 50 et Wilder nous fait ce film qui est quand même un gros avertisseur, si je puis dire. Et puis au contraire, dans les années 60, on a Du silence et des ombres, qui est un film de Robert Mulligan, qui à mon avis est peut-être l'un des plus grands cinéastes américains des années 60. Et là, au contraire, on a un film qui arrive quand même dans une Amérique encore raciste, à l'époque du combat pour les droits civiques, qui est un film dans lequel Gregory Peck finalement va nous donner confiance dans le rêve américain et dans sa capacité à faire régner la justice et d'une certaine manière à faire évoluer la société. Et donc là, au contraire, on a un film qui est un film qui a une forme d'optimisme et de confiance dans la capacité de la société américaine finalement à faire que les efforts d'un homme juste cet Atticus Finch, hein, on a tous rêvé d'une certaine manière d'être le personnage de Gregory Peck, et donc qui nous montre que les efforts d'un homme juste peuvent être récompensés finalement.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que Du silence et des ombres à l'époque a été un grand succès. C'est un des films les plus cultes, hein, de l'histoire du cinéma américain. C'est vraiment un film qui passe très régulièrement, que les Américains ont presque comme en religion presque. Et Gregory Peck a même obtenu l'Oscar pour ce
rôle.
Oui,
puis c'est vraiment un film qui marque, si je puis dire, le fait que la société américaine, Hollywood, tout le monde est un peu aligné en Amérique dans le camp du bien, quoi. Dans une espèce, je dirais que c'est presque un peu le film contraire à l'époque actuelle où un type quand même assez bizarre peut réussir à se faire élire.
On ne voit pas de qui vous parlez.
Et donc forcément, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui pensent comme lui. Là, c'est au contraire une époque. Ce film marque une espèce d'alignement des planètes américaines pour plus de justice. Alors bientôt, il va y avoir le Vietnam, il va y avoir d'autres choses qui vont nous faire reculer. Mais là, on est vraiment à un des meilleurs moments illustrés par ce film. Et c'est pour ça qu'il est aussi emblématique.
Alors c'est vrai que c'est intéressant, chers auditeurs, d'aller voir les deux films, puisque vous aurez l'idéalisme, mais dans le meilleur sens du terme, de Mulligan, et le cynisme absolu, je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus, du film de Billy Wilder, Le Gouffre aux Chimères, qui était vraiment un film absolument implacable. Et Kirk Douglas n'hésite pas vraiment à pousser le curseur très très loin, vraiment presque dans la crapulerie. C'est vraiment, autant il y a eu des films qui ont même encore récemment mis le journalisme en étendard et vraiment célébré cette profession, autant là c'est vraiment un film qui dénonce tous ses travers, et on est en 1951. Et le film, 50 ans après, est d'une actualité folle.
Ouais. Et par ailleurs, c'est un des grands personnages de cynique de Kirk Douglas, qui va à l'époque en faire plusieurs. Il y a Le Champion de Mark Robson, etc. Enfin, il y en a.
Et The Bad and the Beautiful juste après.
Voilà,
enfin,
on
parlait récemment de Kirk Douglas qui a fêté ses 100 ans, mais c'est en tout cas l'un de ses plus grands films, donc Le Gouffre Chimère de Billy Wilder, qui ressort le 15 février.
Where do you get those ideas? Herbie boy. How long did you go to that school of journalism?
3 years.
3 years down the drain. Me, I didn't go to any college, but I know what makes a good story, because before I ever worked on a paper, I sold them on a street corner. And you know the first thing I found out? Bad news sells best. Because good news is no news.
Flashback célèbre le cinéma d'hier, mais lorsqu'un cinéaste parvient à le transcender dans un film contemporain, alors cela donne La La Land, un hommage vibrant aux grandes comédies musicales, autant qu'une réflexion sur la notion d'artiste aujourd'hui. Alors Antoine, on va revenir avec vous sur quelques-uns des fleurons du genre, américains mais pas que Damien Chazelle met en majesté dans son film.
What I had to do, 'cause I just knew. So
d'abord, je pense que La La Land, c'est quand même un film sur lequel, même si c'est pas le film qui donne le plus de références, je trouve que l'esprit qui flotte dessus, c'est l'esprit des Parapluies de Cherbourg. Parce que la caractéristique, évidemment, de la comédie musicale, c'est que généralement, ça raconte des histoires joyeuses qui se terminent bien. Enfin, il y a une espèce d'idée qu'avec du chant et de la musique, sauf si on fait vraiment un mélodrame, on doit faire quelque chose de joyeux et quelque chose de totalement optimiste. Il y a un film connu qui est une exception à ça et qui a même marqué le genre, c'est évidemment Les Parapluies de Cherbourg, parce que Les Parapluies de Cherbourg racontent l'histoire d'un amour impossible et ils le racontent en même temps dans un cadre très acidulé, dans un monde qui semble apparemment repeint, beau, etc. Et là, finalement, on est un peu dans la même histoire d'un amour impossible qui nous est raconté par La La Land. Alors, dans Les Parapluies de Cherbourg, c'est les circonstances historiques qui rendent l'amour impossible. Dans La La Land, c'est les contraintes modernes du monde du spectacle qui le rendent impossible. Mais on a bien cette espèce de clash entre un univers de comédie musicale entraînant et puis d'un autre côté, cet amour impossible. Alors, c'est vrai que les références, elles sont très nombreuses dans La La Land. Et il y a une jeune madrilène de 19 ans qui s'appelle Sara Preciado qui a remporté un incroyable succès en postant sur les réseaux sociaux une vidéo qui donne en musique la liste de ses références cinématographiques sur lesquelles donc est construit l'univers de La La Land. Alors évidemment, la première scène qui frappe, c'est celle du début avec le ballet dans les bouchons au-dessus de Los Angeles et qui est évidemment un hommage aux incroyables plans séquences dansants de Jacques Demy, mais cette fois-ci plus encore que dans Les Parapluies de Cherbourg, c'est plutôt aux Demoiselles de Rochefort que l'on pense, même si Damien Chazelle tente ici finalement d'être plus Demy que Demy, puisqu'il ajoute une sorte de profondeur de champ incroyable que permettent d'obtenir les paysages de Los Angeles à celle qu'on avait dans Les Demoiselles de Rochefort, mais qui est quand même limitée par ce qu'était la grande place de la ville de Rochefort, même si d'ailleurs Demy l'avait en partie choisie parce qu'elle lui permettait d'obtenir une certaine profondeur de champ. Alors, il y a des scènes où on voit Emma Stone danser dans des tenues très colorées avec ses colocataires qui sont inspirés de Grease, qui sont inspirés de West Side Story. On notera d'ailleurs au passage de petits détails cinéphiles qui ne sont pas mentionnés dans la vidéo de Sara Preciado, comme par exemple l'affiche de The Killers, le film qui révéla Ava Gardner, ou plus étonnant, celle de The Black Cat, un légendaire film fantastique de l'âge classique d'Hollywood. Il y a un autre clin d'œil cinéphile avec Emma Stone et ses amis qui dansent dans la rue, comme Shirley MacLaine dans Sweet Charity, qui est en 1969 le premier film de Bob Fosse, qui va être le futur réalisateur de Cabaret et de All That Jazz. Alors il y a beaucoup de références à Singing in the Rain, colportées un peu partout dans le film, depuis la farandole d'affiches lumineuses façon Times Square jusqu'à Ryan Gosling qui danse accroché à un lampadaire. In the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in. Évidemment, donc on a Gene Kelly, mais on a aussi Fred Astaire. On a une petite allusion quand Fred Astaire danse assis sur des patins à roulettes. On a une scène un peu similaire avec Ryan Gosling et Emma Stone qui sont assis. Et puis alors, surtout, on voit Emma Stone et Ryan Gosling qui dansent dans un parc, comme Fred Astaire et Sid Charis dans Tous en scène. C'est l'un des morceaux de bravoure, c'est l'une des choses les plus réussies à mon avis, de La La Land, parce que dans le film Tous en scène de Vincente Minnelli de 1953, cette chorégraphie qui est plutôt calme, dans laquelle il n'y a pas d'exploit extrêmement tape à l'œil, est finalement une scène extraordinaire, une scène marquante de la comédie musicale, uniquement grâce à l'élégance incomparable de Fred Astaire et de Sid Charis. Et là, quand même, ce qui est extraordinaire, c'est qu'alors que Astaire et Charis étaient à peu près les deux meilleurs danseurs du monde, Chazelle arrive à obtenir une élégance presque comparable de la part d'Emma Stone, et surtout, je trouve, dans cette scène de Ryan Gosling.
Il faut rappeler que les deux acteurs se sont beaucoup entraînés. Ryan Gosling a appris le piano, il en a même devenu presque un virtuose. Ils ont répété pendant des mois et des mois. Le tournage a été court, 8 semaines. Quand on voit le résultat, on est assez époustouflé. Mais il y a eu un vrai travail de répétition. Et comme vous le disiez, Antoine, et ça c'est vraiment, vraiment important de le signaler, toutes les grandes scènes musicales du film ont été tournées en plan séquence, vraiment à l'image des grands classiques hollywoodiens, mais à l'image aussi de ceux qui se sont appropriés le genre plus récemment. Je pense à Woody Allen par exemple, avec Tout le monde dit I love you. Quand Woody Allen filmait les séquences musicales, il les filmait également en plan séquence pour vraiment garder une unité. Donc pour ça, comme vous le disiez, Ryan Gosling et Emma Stone devaient être au top. Je signalerai aussi dans les références évidentes, évidemment, sur la dernière partie du film qui me semble-t-il est la plus belle, c'est évidemment Un Américain à Paris de Vincente Minnelli.
Alors Un Américain à Paris, justement, j'y viens. Mais c'est assez étonnant parce que c'est souvent assez mélangé. Alors d'ailleurs, il faut dire qu'il y a des références à des films plus récents, puisque par exemple, on a une scène de danse dans un ciel étoilé qui est calée sur celle de Moulin Rouge. On a la caméra sous-marine dans une piscine comme dans Boogie Night. Et puis alors, il y a parfois un décalage subtil et même une confusion un peu volontaire entre plusieurs références. Comme par exemple, quand on a Emma Stone, très charmante d'ailleurs, qui est entourée de ballons devant un décor qui évoque l'Arc de Triomphe de l'Étoile façon Un Américain à Paris, mais c'est pourtant une scène qui est inspirée de Drôle de Frimousse, oui, où Audrey Hepburn est également entourée de ballons, mais cette fois devant l'Arc de Triomphe du Carrousel. Donc il y a une espèce de confusion volontaire, bien sûr, c'est l'idée de la référence évocatrice et pas de la référence décalquée. Et on va retrouver ça aussi un peu dans une espèce de travelling dansant sur les bords d'un canal de studio, dans lequel vont s'enchaîner en très peu de temps finalement des références au Parapluie de Cherbourg qu'on revoit ici, mais alors aussi un court-métrage mythique, alors là c'est de la haute cinéphilie quand même, d'Albert Lamoris, tourné en 1956, qui se passe à Paris, l'histoire d'un enfant, très jolie histoire, qui s'appelle le Ballon
le
Rouge.
Ballon Rouge, oui. La référence est explicite dans le film.
Puis enfin, juste après, à Un jour à New York, célèbre musical, évidemment, avec Gene Kelly et Sinatra, qui lui ne se passe forcément, vu son titre, pas à Paris. On voit valser Emma Stone et Ryan Gosling sur une scène dont le décor étoilé évoque celui d'Eleanor Powell et Fred Astaire dans Broadway Melody of 1940. Alors là, quand même, la ressemblance s'arrête là, parce que Powell et Astaire, dans ce film Broadway Melody, font un des plus grands numéros de claquettes de toute l'histoire du cinéma. Et là, même si Emma Stone et Ryan Gosling sont des acteurs émérites, on les a fait quand même prudemment valser sur cette scène, plutôt que de tenter d'aller sur le terrain de ces deux références. Puis alors dans le montage de Sarah Preciado, que je vous invite donc à regarder.
Il faut absolument le découvrir.
Il y a un élément de décor très important dans La La Land qui n'est pas mentionné, mais qui pour moi joue beaucoup dans l'ambiance du film et aussi dans la compréhension de ses références. C'est le Griffith Observatory, le fameux observatoire et planétarium situé sur les hauteurs d'Hollywood, qui sert de décor principal à La Fureur de Vivre, le film mythique avec James Dean et Natalie Wood. Et donc là, il y a quand même, on a Ryan Gosling et Emma Stone qui se mettent mettent dans les chaussures, si on peut dire, de James Dean et Natalie Wood. On voit même d'ailleurs dans le film de Chazelle l'une des attractions de l'observatoire Griffith, qui est la bobine de Tesla, qui est un des premiers transformateurs électriques de l'histoire. Alors, est-ce que c'est un placement de produit effectué, très subtil, effectué par le célèbre constructeur de voitures électriques basé lui aussi en Californie? Je ne sais pas. En tout cas, il y a sûrement beaucoup d'autres messages subliminaux dans ce film qui réussit vraiment l'exploit d'être d'une totale actualité malgré cette impressionnante collection de références. Je pense que cette conjonction de l'actualité, je veux dire, c'est un film qui n'a rien de suranné et qui exploite 50 ans de cinéma américain et notamment de comédie musicale, mais pas que, comme le montre quand même la forte référence à la Fureur de Vivre, qui n'est pas du tout une comédie musicale. Donc il y a vraiment cette capacité de puiser dans la culture pour produire un objet qui n'est pas suranné. Et quel que soit, après on peut dire, est-ce que c'est, il y a des gens qui ont dit que c'était le meilleur film depuis Citizen Kane, faut peut-être pas exagérer quand même, mais en tout cas c'est quand même un travail qui est absolument remarquable sur ce plan-là.
Oui, puis c'est un film à la fois très cinéphile, comme on vient de le dire évidemment, et dont on a grainé toutes les références, et aussi populaire, et ce qui n'est pas si fréquent, et vu le succès du film, on peut s'en réjouir. Merci Antoine, on parle maintenant d'un cinéaste de légende, Costa Gavras. Costa Gavras nous a fait l'honneur d'être l'invité de Flashback. Nous l'avons rencontré lors du festival Premier Plan d'Angers, à l'occasion de la sortie d'un coffret édité chez Arte, réunissant ses 9 premiers longs-métrages en version restaurée, réalisés entre 1965 et 1983, dont les plus célèbres, Z, L'Aveu, État de siège ou encore Missing, qui ont fait de lui le maître des thrillers politiques. Costa Gavras a quitté sa Grèce natale à 19 ans, pour la France, où il entra à la fameuse école de cinéma Lidec, avant d'être l'assistant réalisateur de René Clément, Henri Verneuil et Jacques Demy. Par la suite, il entama une carrière de cinéaste jalonnée de succès et de récompenses, un prix du jury pour Z, un Oscar pour Missing et une Palme d'Or pour le même film. Une carrière donc jalonnée de récompenses et de succès. Mais justement, je lui ai demandé pour quelles raisons il n'aimait pas le mot de carrière.
Je n'aime pas ce mot de carrière et j'essaye de le dire d'ailleurs dans une longue interview que j'ai fait dans ce coffret, parce que carrière, ça veut dire une organisation de sa vie. On est militaire, on passe à l'école, on est lieutenant, etc., jusqu'au général, jusqu'au lieu. On est fonctionnaire, pareil. On est politique, et puis on est même entrepreneur, et on a un programme. Au cinéma, on n'a pas un programme. On fait un film, parce qu'on le fait avec, en tout cas, je l'ai fait avec ce que je pense, avec mon cœur, avec toute mon énergie, et aussi avec ce que je crois. Et puis ça peut marcher, ça peut pas marcher. Et si vous en faites un ou deux ou trois qui ne marchent pas, et bien après vous êtes disparu. Bon, j'ai eu la chance de faire des films qui ont marché, donc je continue. Mais le faire dans une carrière, on organiserait les films qui marchent ou qui ne marchent pas, et bien c'est impossible au cinéma. Et heureusement d'ailleurs. Je veux citer, comme je le fais souvent, Cocteau, qui disait: il y a des règles pour faire des succès, mais nous ne les connaissons pas. Et alors comment on ne les connaît pas, on peut faire une carrière?
Alors, vous réalisez en 1965 votre premier film, Compartiment Tueur, d'après un livre de Sébastien Japrisot, avec déjà une pléiade d'acteurs impressionnants, quand on cite les noms, Montand, Piccoli, Signoret, Mondy, Trintignant et quelques autres. Et ce qui frappe en voyant le film, c'est sa grande vivacité. Et je trouve qu'il y a aussi, avec un certain maniérisme dans la mise en scène, avec des, par exemple, des angles de caméra qui sont assez surprenants. Et je trouve que, alors vous allez me dire si je me trompe, mais vous avez commencé un petit peu à l'instar d'un Claude Sautet dans la série noire, dans un film noir. C'était quoi? C'était une manière pour vous de faire vos classes? Ce choix-là qui ne sera plus trop après le cas dans votre
réseau? Compartiment Tueur, c'est fait par hasard, complètement. J'étais assistant de Clément, il m'avait dit: je fais un autre film, attendez-moi. J'avais de l'espace, 2 ou 3 mois, et je suis tombé par hasard sur ce livre, et j'ai dit: je vais faire un exercice de scénario pour apprendre le scénario. Voilà. Et je fais le scénario. Une secrétaire au studio de Boulogne l'a tapé, parce que j'écris à la main, l'a donné au directeur de studio, qui m'a appelé, dit: c'est formidable histoire, faisons le film. Je dis: mais j'ai pas les droits, je n'ai rien du tout. Et c'est parti comme ça, et le film, ça a été fait comme ça. Alors, les acteurs de Compartiment, et puis par la suite, j'aime les acteurs. Je pense que c'est les premiers collaborateurs du metteur en scène. Pourquoi? Parce que c'est eux qui portent l'histoire au public. S'ils sont bons, on y croit, s'ils ne sont pas bons, on n'y croit pas, on croit qu'à moitié. Voilà. Donc, je connais les acteurs. En tant qu'assistant, je faisais le casting des films que j'assistais, donc, et je connaissais les acteurs très bien. Quand ils ont su que je faisais un film, ils ont accepté de faire un rôle petit ou grand.
Il y a ensuite Un homme de trop que vous tournez.
Un homme de trop, voilà.
Qui marche moins bien.
Qui ne marche pas du tout, même.
Et ensuite, vous avez beaucoup de difficultés à trouver les financements pour les aides. Grâce à Jacques Perrin, grâce à ses relations en Algérie, vous arrivez à tourner le film. Et ce film-là fait de vous voilà, le réalisateur emblématique des thrillers politiques. Mais alors, qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux, le thriller ou la politique? Parce que vous dites souvent que le cinéma est avant tout un spectacle. Mais je trouve que dans vos films, c'est souvent un spectacle sur la société, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous traitez vraiment de problèmes actuels, contemporains ou actuels, mais de manière, en effet, très cinématographique, finalement.
Mais les auteurs de la tragédie grecque, il y a 2500 ans, ils ne faisaient pas autre chose qu'à raconter la société. Molière n'a pas fait autre chose qu'à raconter la société. Puis j'en citerai d'autres, Shakespeare a fait tous. Donc, et le grand cinéma que j'ai appris à l'école, que j'ai aimé, c'est d'y raconter la société. Donc ce qui m'intéressait aussi, c'est de raconter la société. Et dans ce cas-là, c'était la société grecque d'une certaine manière, mais ça s'est prolongé dans cette histoire de Z, ça s'est prolongé dans les autres sociétés. Il s'agissait de la justice. La justice et l'intervention à la justice du pouvoir politique ou du pouvoir militaire ou du pouvoir policier. Voilà. Donc il n'y a plus de justice quand il y a ça. Donc c'est cette idée-là qui existe dans le monde entier. Donc elle était particulière en Grèce dans cette histoire, mais ça s'est prolongé un peu partout. C'est ça qui m'intéressait. Et là encore, on est dans le pouvoir. Dans le pouvoir et les victimes du pouvoir, et les hommes. Parce que finalement, on fait des films sur les hommes et les femmes. Hein. On ne fait pas des films sur je ne sais plus quel. On disait à un moment donné que faire des films pour l'esthétique. Qui c'est l'esthétique? Je ne connais pas l'esthétique. Je n'ai jamais rencontré l'esthétique. Je vois film pour l'esthétique, ça n'existe pas. Si on fait des hommes, on fait des films pour les hommes, les femmes, leur et l'histoire.
Oui, bon, dans un pays où même l'imagination est suspecte, et pourtant, il faut de l'imagination pour résoudre les problèmes de cette planète, où la puissance explosive des bombes atomiques stockées correspond à une tonne de dynamite par habitant.
Ah merde, alors tu penses qu'à ça?
On veut nous empêcher de parler. On veut nous empêcher de tirer les conclusions politiques qui s'imposent à partir de toutes ces vérités très simples. Mais nous parlons. Nous sommes au service du peuple et le peuple a besoin de vérité.
Mais alors, Z remporte un grand succès à l'époque, plusieurs prix à Cannes et aux Oscars. Et à ce moment-là, vous avez beaucoup de propositions aux États-Unis déjà, dont un certain parrain, on peut le dire maintenant.
Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai.
Qu'on vous propose, que vous refusez. Je crois que vous jugez le livre de Puzo pas très bon.
C'est un très mauvais livre, c'est un mauvais livre. J'ai parlé avec Coppola, j'ai dit c'est grâce à Coppola que le film est un grand film, parce qu'il l'a fait avec son talent, parce qu'il est italien, il connaissait l'Amérique. Moi, qu'est-ce que j'allais faire dans cette histoire de mafia et de drogue, etc., des histoires de sexe aussi, dans le livre épouvantable.
Et alors, vous attendez un certain nombre d'années, et puis en début des années 80, en 82, vous acceptez Missing, hein, qui est un projet qui vous est cher. Qu'est-ce qui finalement, avec ce film-là, vous a poussé aller à travailler enfin pour les studios hollywoodiens?
Essentiellement deux choses. D'abord, le Chili, que je connaissais parce que j'avais rencontré Allende, j'avais rencontré ces gens, je pensais des gens formidables qui voulaient instaurer un nouveau type de démocratie en Amérique latine par rapport aux autres pouvoirs qui étaient sous la férule américaine complètement. Et ça m'intéressait beaucoup. Et puis il y avait une autre chose aussi qui était... Et puis Pinochet, un coup d'État qui ressemblait un peu au coup d'État grec, mais pas aussi... Le coup d'État grec n'était pas aussi violent. Et puis surtout, l'histoire du père qui n'est pas son fils et qui découvre que son fils, il est mieux que je ne l'ai pensé. Et son pays, qu'il adore, trouve qu'il fait des choses inacceptables ailleurs. Voilà. Et une autre chose, le film ne s'est passé pas en Amérique. Moi, je ne connaissais pas l'Amérique pour aller faire un sujet américain dans l'Amérique. C'est passé en dehors de l'Amérique. C'est passé au Mexique. Donc, je me sentais beaucoup plus à l'aise. Bon, plus tard, j'ai connu en Amérique et j'ai pu faire des films en Amérique.
Mais vous avez donc eu affaire aussi à la lourdeur, j'imagine, de la production américaine. Vous citez souvent Lou Wasserman, qui était à l'époque à la Universal, qui vous a beaucoup soutenu, je crois.
Complètement. Il m'a donné toute la liberté. Parce que je dis, par exemple, que je voulais avoir les derniers mots sur le scénario, ce qui n'est pas habituel à Hollywood. Le casting aussi. et puis faire la post-production, faire d'abord le film avec mes équipes françaises et faire la post-production à Paris. Je ne voulais pas immigrer à Los Angeles. Et Wasserman et Ned Tannen, qui était aussi à côté de lui, ils ont accepté toutes ces conditions-là. D'ailleurs, tous les films que j'ai fait en Amérique, je les fais sous ces conditions-là, sinon je ne les ferai pas, c'était très net. Je les fais comme ça ou je ne les fais pas. Et ça a été accepté, et c'est comme ça que je fais celui-là, et puis les 3-4 autres aussi.
Et pourtant, quand vous parlez d'Hollywood, on sent souvent quand même une certaine, non pas dureté dans votre jugement, mais... Alors pourtant, vos films ont été réussis là-bas, vous avez eu le contrôle sur ces films, comme vous venez de le dire, vous avez pu les tourner comme vous le vouliez, avec l'équipe que vous souhaitiez, mais pourtant, le regard que vous portez à Hollywood semble quand même assez détaché, souvent, ou en tout cas assez, parfois même un peu sévère.
Non, parce que je sais que tous les... Pas tous, beaucoup d'Européens qui ont fait l'expérience de Hollywood, ils ont eu des bons succès jusqu'à un certain moment, après quand ça ne marchait pas, ils ont été écartés complètement. Ou alors beaucoup, dès le début, et il y a des exemples formidables, je ne vais pas les citer parce que j'en connais au moins 3, ils ont souffert beaucoup pour faire les films et ils ont fait soit des pas bons films ou soit pas des films du tout. Donc Hollywood, c'était un endroit formidable, ils ont fait des films extraordinaires et ils ont appris le cinéma de la façon comme ils le font, qui nous a beaucoup d'ailleurs influencé sans doute. Mais il y a aussi derrière ça une sorte de machine qui ne pense qu'au succès, qui ne pense qu'à contrôler la mise en scène, contrôlée par des gens qui sont des financiers et qui n'ont pas une grande connaissance du cinéma. D'ailleurs, la guilde des metteurs en scène, quand on parle avec eux, je suis membre de la guilde, eh bien, ils disent, on aimerait bien être comme chez vous, en France, avoir le montage, la liberté du montage. Le metteur en scène n'a pas la liberté de montage. Il fait un montage, et puis le producteur peut venir derrière et changer tout complètement. Et puis, la même chose pour les acteurs, etc. Moi, pour Missing, par exemple, il ne voulait pas Jack Lemmon. Moi, j'insistais beaucoup, il me proposait d'autres vedettes très, très, très importantes. Non, je voyais Jack Lemmon. Et il y a une bataille, finalement, ils ont accepté. Sinon, j'ai risqué presque de ne pas faire le film.
We're not involved, Mr. Harmon. Our position has been completely neutral.
That is a bald-faced lie, sir. How can you say a thing like that when you have army colonels, you have naval engineers, they're all over Viña del Mar?
Please, sit down. Look, it's very obvious that you're harboring some misconception regarding our role here.
What is your role here, besides endorsing a regime that murders thousands of human beings?
Alors, ce qu'il y a d'assez drôle, il y a une anecdote assez savoureuse, je trouve, par rapport à Missing. C'est donc le film est censé se dérouler au Chili. Vous ne l'avez pas tourné là-bas. On était en pleine dictature de Pinochet. Le film a été interdit pendant très longtemps, jusqu'à la fin de la dictature, je crois. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote de cassette vidéo du film envoyée en sous-main au Chili sous des jaquettes Walt Disney? Enfin, je crois que voilà. Est-ce que
oui,
vous pouvez...
on a envoyé parce que beaucoup de Chiliens disaient il faut voir ce film et puis on s'est arrangé de prendre des pochettes Disney ou d'autres pour des films complètement Laurel et Hardy par exemple, on mettait il y avait des VHS à l'époque, ouais, et puis j'ai su plus tard qu'ils les voyaient chez eux, ils faisaient des soirées comme ça presque en clandestinité, il y avait un dîner et après ils regardaient le film et c'était très émouvant quand je suis allé présenter le film après là-bas. C'était formidable les histoires qu'ils me racontaient dans ce sens-là, parce que beaucoup de gens, pas seulement de France, d'Amérique aussi ou même d'autres pays, ont voyé le Missing parce que c'était le seul film qui, enfin d'après eux, qui parlait de Pinochet, de cette histoire d'une manière très claire.
Et 10 ans auparavant, vous tourniez sous le gouvernement Allende, état de siège avec Montand. Donc il y a comme ça, alors c'est le hasard de l'histoire qui fait qu'il y a oui. Cette connexion.
Malheureusement, parce qu'en plus, l'état de siège, je ne pouvais pas le faire dans aucun autre pays en Amérique latine. C'est le seul pays où on pouvait le faire, c'était le Chili pendant l'époque de Allende. C'est là d'ailleurs où j'ai connu Allende, et c'est aussi une des raisons qui m'a poussé de faire Missing aussi. C'était un peu en son hommage, c'était un homme que j'admirais beaucoup.
Alors, État de siège fait évidemment partie de votre série de films avec Yves Montand, qui a vraiment marqué, je trouve, vos films de son empreinte, en particulier évidemment pour L'Aveu, pour lequel il a perdu beaucoup de kilos et dans lequel il a eu un investissement rare quand même pour un comédien à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression que vous êtes le premier cinéaste à l'avoir filmé ainsi. À cette époque-là, Montand n'avait pas cette image-là à l'écran, et même d'autres cinéastes après vous, ou même en même temps que vous, comme Sautet par exemple, l'ont filmé de manière, on va dire, beaucoup plus légère. Et vous l'avez vraiment filmé avec une gravité, une sobriété. On a l'impression que, oui, que Montand sans vous et vous sans Montand, ça n'aurait pas été la même histoire. Enfin, il y a quelque chose vraiment d'indissociable.
C'est assez juste. C'est assez juste. C'est-à-dire qu'avec Montand, on a fait une amitié professionnelle et de vie. et familiale, très forte après Compartiment Tueur. Pendant Compartiment Tueur, Montand voulait absolument être dans le film, voulait faire un rôle, et puis ça lui plaisait pas beaucoup de faire un policier. À l'époque, les policiers, après la guerre d'Algérie, ils n'avaient pas une bonne image, etc. Et puis, mais je lui ai proposé un masque, de faire le film avec l'accent marseillais qu'il avait, qu'il essayait de cacher. Et il a hésité au début, et finalement il a accepté. Et il s'est senti libéré, complètement. D'ailleurs, au premier jour de tournage, après la première scène avec Simone, qu'il visite chez elle, et il a sorti, il m'a dit, on va continuer avec l'accent. Et c'est vrai qu'il s'est senti libéré. Il s'est senti, comme il a dit après dans différentes biographies, que pour la première fois, l'acteur, le rôle de l'acteur, doit venir l'incarnation des personnages de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Or, lui, il avait des images de Humphrey Bogart, je ne sais plus quel autre acteur, Gary Cooper, comme ça, sa façon de tenir la cigarette, etc. Il était dans le domaine de l'imitation, presque. Et là, il a compris que non, ça passe de l'intérieur. Et je crois que c'est ça qui a fait que on s'est beaucoup rapprochés, et il me faisait une confiance absolue. Et pour Z, et surtout pour l'aveu, qui était quand même un rôle très difficile, État des sièges aussi, qu'il a accepté de jouer un personnage tout à fait contre le méchant, comme on dit, mais parce que je lui ai dit, voilà, ça ferait une sorte de triptyque qu'on ferait, une trilogie. Il m'a dit, bon, je le fais quand même. Et c'est lui qui a inventé complètement les personnages d'Américains avec une coupe de cheveux particulière, etc. Voilà. Donc, une confiance mutuelle complète. Et je pense que c'est la meilleure façon de travailler, de mettre en scène avec son acteur.
Pour ces contacts, Noël Film m'a remis la somme. Il vous a remis combien ?
Non, 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 pas pour ces contacts. Mmh. C'est pendant ces contacts. Mmh. C'était pour payer les frais de sanatorium. Le parti est au courant, il m'a autorisé.
Qui faut-il le contraire ? Ainsi, il vous a remis de l'argent ?
Oui.
Combien ?
Ben, je ne sais plus, il y a 5 ans.
Marché.
Mais c'était pas pour ses contacts qu'il m'a remis de l'argent. C'était pour soigner mes poumons malades après les camps nazis. Et le parti savait très bien que les services de field étaient les anciens déportés.
Alors, dans l'aveu, vous filmez une prison. Dans Z, le bureau d'un juge d'instruction. Dans section spéciale, la plupart du temps, un tribunal. Vous ne choisissez pas... Alors, comme vos sujets, qui ne sont pas toujours faciles d'approche et, j'imagine, à réaliser, à monter, même financièrement, vous choisissez souvent des décors qui ne sont pas très cinématographiques. Hein, et pourtant, vous arrivez, dans la plupart de vos films, à les rendre cinématographiques. C'est-à-dire que, comme ça, sur le papier, un bureau d'un juge d'instruction avec des auditions, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus excitant à l'écran. Et pourtant, c'est tout le temps haletant. Est-ce que ça se prépare, ça, en amont ?
C'est pas les décors. C'est l'histoire qu'on raconte dans le décor. C'est le rythme de l'histoire, plus, et la qualité de l'acteur. On ne voit plus les décors. Quand l'acteur est bon, est très bon même, comme Trintignant dans Z, on ne voit plus son bureau, parce que c'est le même bureau qu'on voit pendant toute cette période du film. On s'en fiche complètement. Ce qui compte, c'est la qualité de l'acteur et ce qui est en face de lui. Quand on a Dux, Bozuffi et quelques autres en face de lui, et l'acteur, tout d'un coup, ça devient une sorte de symbiose extraordinaire, et le spectateur est avec eux, et le décor n'a rien à fiche.
Mais ça, ce sont des choix qui se font directement au scénario, enfin ce sont des...
Absolument, c'est le scénario. Beaucoup de gens me disent, ah, le montage de ceci, le montage de cela. Le montage, c'est fait au scénario. Si vous n'avez pas un bon montage, une bonne construction montée, vu le montage définitif au scénario, vous ne l'aurez pas à la fin. Alors qu'est-ce que c'est ? Le montage, vous le faites au scénario. Ensuite, vous le continuez pendant que vous tournez le film. Chaque plan, vous savez comment, plus ou moins, vous allez le monter. Et puis tout ce matériel qui est énorme, vous avez une idée depuis le début. Et quand vous êtes à la machine du montage, eh bien, vous essayez de retrouver votre idée du scénario. Ben, sinon, ça ne marche pas.
Vous avez fait plusieurs thrillers politiques, on l'a dit, mais est-ce que ça n'est pas un genre qui est assez risqué dans son traitement ? C'est-à-dire que, est-ce que on a parfois une cause à défendre dans un film politique, hein ? Est-ce que le manichéisme, ce qui n'est pas le cas de vos films, hein, du tout, mais est-ce que le manichéisme n'est pas justement un danger et un souci dans l'écriture, dans le tournage, dans la post-production ? En gros, si vous voulez, de prêcher des convertis, c'est-à-dire vraiment d'être là avant tout pour raconter une histoire et ensuite, évidemment, délivrer un message.
Les mots, vous savez, cause... à défendre, les mots condamner telle ou telle chose, ou quelques autres mots qu'on utilise, ne me conviennent pas complètement. On fait du spectacle. Et dans le spectacle, j'insiste toujours, c'est qu'on va au cinéma pour avoir des bons sentiments, c'est-à-dire rire, pleurer, être en colère, détester même parfois. Et bien avec tous ces sentiments, que ce soit d'ailleurs le théâtre, que ce soit les concerts de musique, on a des sentiments. Avec ces sentiments, on poursuit notre vie après. Et je pense que le cinéma est fait pour cela. Ça n'est pas pour aller recevoir des messages d'un tel ou d'une telle, n'est-ce pas? Parce que ça n'est pas non plus pour avoir des discours politiques ou académiques ou tout ce que vous voulez. Non, c'est pour avoir des sentiments. Alors avec sentiments, vous êtes libre après de faire ou de ne rien faire, ce que vous voulez. C'est comme ça que je vois le cinéma. Alors, quand on me dit, vous condamnez de tel... Non, vous condamnez, je montre ce qui s'est passé dans l'aveu. Avec cette époque-là. Il y a une histoire d'un homme qui racontait son histoire dans la prison du Parti communiste tchécoslovaque. Je le montre. D'ailleurs, je ne dis pas que c'est la Tchécoslovaquie. C'est quoi? C'est un homme face à un système, face à un pouvoir. Voilà. Et comment il réagit cet homme et comment... Voilà. C'est ça qui m'intéresse.
Vous êtes aussi président de la Cinémathèque française depuis plusieurs années. Quel rôle a joué la cinéphilie dans votre vie et quel rôle joue-t-elle encore aujourd'hui? Est-ce que vous êtes toujours avide de voir des films nouveaux ou anciens? Est-ce que ça vous nourrit toujours autant?
Ah oui, on a passé des dernièrement, on passe encore, je crois, jusqu'à cette semaine, les Capra à la Cinémathèque, j'étais voir quelques-uns que j'avais déjà vus. J'ai pris un plaisir immense de voir Capra. Absolument, je pense que la Cinémathèque joue un rôle formidable d'une manière générale. Alors, en ce qui concerne la cinéphilie dont vous me parlez, ah oui, je vois les films. J'aime voir les films, j'aime voir les films qui se font aujourd'hui, parce que chaque metteur en scène, chaque jeune metteur en scène imprime sa façon de penser et montre aussi la société comme il la voit, lui, et que je ne la vois plus comme ça, moi. Parce qu'avec l'âge, avec le milieu qu'on fréquente après un certain âge, etc., ça n'est plus la même vision. Ça m'intéresse énormément.
L'intégrale Costa-Gavras volume 1, soit les 9 premiers films du cinéaste réalisés entre 1965 et 1983, est disponible en DVD et Blu-ray chez Arte Édition. On remercie particulièrement le festival Premier Plan d'Angers pour cette interview. Et tout de suite, on parle des rétrospectives et des événements. Parmi les rétrospectives de ce mois de février, citons Antoine le cycle George Stevens à l'Institut Lumière du 4 au 26 février.
Oui, George Stevens, c'est un réalisateur dont l'importance a été redécouverte finalement assez tardivement, qui a souffert d'avoir remporté de grands succès commerciaux alors que ses films n'ont pas que des qualités. Mais pourtant, s'il y a une chose qui mérite d'être reconnue à Stevens et qui l'est vraiment aujourd'hui, c'est qu'il était un véritable auteur. D'ailleurs, il y aura le 21 février une conférence de Michel Simon sur Stevens à l'Institut Lumière en accompagnement du dossier que lui consacre la revue Positive dirigée par Simon. Et puis nous aurons pendant le mois de février à l'Institut la projection de 7 films marquants de Stevens. Alors il y aura Swing Time, un film avec Fred Astaire et Ginger Rogers qui associe un scénario amusant avec une utilisation assez virtuose de la caméra. Il y aura Mariage Incognito où Ginger Rogers joue sans Fred Astaire et c'est pas mal du tout. Et puis Demoiselle en détresse, où Fred Astaire est sans Ginger. Là, il y a quelques morceaux de bravoure musicaux, mais le film est quand même dans son ensemble moins bon. On aura aussi La Femme de l'année, la comédie qui marque la rencontre de Katharine Hepburn avec Spencer Tracy, un film incroyablement pionnier sur la parité au travail et dans la société, et puis avec des morceaux de bravoure, de comédie, et une Katharine Hepburn qui est à la fois une grande féministe et une grande séductrice dans le film. Jusqu'ici, je n'ai parlé que de comédie, mais voilà, George Stevens va faire partie en 1944 des réalisateurs chargés d'accompagner et de filmer l'armée américaine. Alors il va assister en Europe au débarquement de Normandie, mais il va surtout assister à la libération du camp de concentration de Dachau. Et ces événements vont transformer la vision de Stevens, qui va désormais faire des films aux propos beaucoup plus graves, dont beaucoup vont interroger la société américaine. Et donc à partir de l'après-guerre, Stevens ne fera plus jamais de comédie. Mais il va faire de très grands films. Ça va être L'Homme des Vallées Perdues, un western tourné en 1950 mais sorti seulement en 52, dans lequel Alan Ladd joue un anti-héros venu de nulle part qui va protéger une famille de pionniers. Une place au soleil, qui est vraiment un mélodrame de l'ambition et de l'échelle sociale américaine en trompe-l'œil, avec un éblouissant trio d'acteurs, Montgomery Clift, Elizabeth Taylor et Shelley Winters. Et puis Géant, grande saga qui réinvente le mythe de l'Ouest et les grandes sagas industrielles de l'Amérique, en même temps à l'ère du pétrole, avec un autre trio d'acteurs mythiques, Elizabeth Taylor, Rock Hudson et bien entendu James Dean.
À propos de l'Ouest, Antoine, du 9 au 28 février prochain, un cycle 100% western s'installe à la Fondation Jérôme Sédou-Pathé, l'occasion pour les spectateurs de découvrir les premiers films de cow-boys américains et surtout le premier western de l'histoire du cinéma, L'Attaque du Grand Rapide, un court-métrage de 10 minutes qui a été réalisé en 1903 par Edwin Stanton Porter et Wallace McCutcheon. Et lors de sa projection, le public fut effrayé par les plans du desperado qui tire face à la caméra. Ce sera donc à découvrir à l'Institut Pathé. Tous ces films, bien sûr, comme d'habitude à la Fondation Jérôme Sédou-Pathé, sont proposés en ciné-concert. Et puis évoquons bien sûr le festival Toute la mémoire du monde à la Cinémathèque française, qui aura lieu du 1er au 5 mars. Durant 5 jours, le public est invité à assister à des projections de prestige en présence de comédiens et techniciens du cinéma et découvrir aussi bien sûr des perles cachées. C'est devenu le grand rendez-vous annuel parisien consacré à la célébration du patrimoine cinématographique. Cette année, c'est Joe Dante, le réalisateur des Gremlins, qui est le parrain du festival. Joe Dante qui donnera une masterclass le samedi 4 mars à 14h. Autre cinéaste invité d'honneur, lui, c'est Wes Anderson, le réalisateur de The Grand Budapest Hotel, qui donnera lui aussi une masterclass le vendredi 3 mars à 18h. À noter que ces deux cinéastes donnent également une carte blanche à leur film de prédilection. Le Cinémascope sera honoré lors de ce festival Toute la mémoire du monde. À partir de 1953, la Fox lance ce format large qui sera prisé par de nombreux cinéastes dont Minelli, Cukor, Kazan, Preminger, Ray ou Fleischer. Dans ce festival également, le Triangle, un studio pionnier créé aux États-Unis en juillet 1915 avec comme figure de proue D.W. Griffith, un hommage à Valentin Valla, une rétrospective aussi sur les mélodrames soviétiques réalisés entre 1926 et 1935, et enfin un panorama sur les films noirs britanniques réalisés au lendemain de la guerre et restaurés par la Cohen Film Collection. Une fois encore, donc, une très riche programmation à découvrir donc à la Cinémathèque française du 1er au 5 mars prochain. Nous consacrons enfin un coup de projecteur à Lumière, l'aventure commence, produit par l'Institut Lumière et Bertrand Tavernier et composé par Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes et le directeur de l'Institut Lumière, qui nous propose une sélection d'une centaine de courts-métrages réalisés par Louis Lumière et ses opérateurs dès 1895, date de la naissance du cinématographe. Une sélection à la fois qui nous montre nombreuses innovations techniques qui impressionnent encore aujourd'hui et qui ont aussi un caractère historique évident. On découvre en effet à travers ces films notamment l'ancien palais du Trocadéro ou l'exposition universelle de 1900.
Un jour de mars 1895, aux alentours de midi, les portes de l'usine Lumière de Lyon s'ouvrent. Devant elles, une nouvelle invention, le cinématographe. L'aventure commence. 17 mètres de pellicule, 35 mm de large, 50 secondes d'une éternité qui dure encore. Beaucoup de drôles de machines avant le cinématographe, mais aucune après lui. Lumière, c'est aussi le témoignage clinique d'une époque, d'un métier, d'un lieu, d'une tradition, sans reconstitution. Lorsque Louis Lumière tourne ses premiers films, tout est là d'emblée et définitivement. Il fut le dernier des inventeurs et le premier des cinéastes. Et dès l'origine, il a fait de ce qui deviendra le 7e art quelque chose de joyeux, de tendre et d'universel.
Et pour en parler, nous avons la chance d'avoir au téléphone Thierry Frémaux. Thierry Frémaux, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous dans Flashback. Alors, vous êtes le directeur de l'Institut Lumière. Vous aviez consacré, il y a 2 ans, une très belle exposition Lumière au Grand Palais. Mm-hmm. D'où vous vient cette passion pour l'œuvre des Frères Lumière?
C'est une passion, et si j'ose dire, si ça ne l'était pas, ça serait une obligation. C'est-à-dire que quand vous êtes directeur de l'Institut Lumière, quand vous êtes cinéphile, quand vous êtes lyonnais, c'est un devoir, ce que les Américains appellent un labor of love, que de s'intéresser au créateur du cinéma. Si à Montreuil les gens s'étaient vraiment intéressés il y a très longtemps à Georges Méliès, ils auraient la même passion que nous mettons nous. Je ne suis pas tout seul, il y a une équipe, il y a Bertrand Tavernier, il y a Bernard Chardère qui s'intéressait aux Lumières. Tout le monde ferait ça à ma place.
Alors la première projection publique payante du cinématographe a eu lieu le 28 décembre 1895 au Café de la Paix. Est-ce que ce moment est vraiment la naissance du cinéma tel qu'on le connaît? Et qu'est-ce qui en fait distingue le travail des frères Lumière des autres inventeurs de spectacles d'images qui fleurissent à la même époque?
C'est en effet les deux secteurs. Il y a le secteur de l'invention et il y a le secteur du cinéma. L'invention a été faite collectivement par plein de gens, dont Thomas Edison, pour parler du plus célèbre rival de Lumière, qui techniquement avait les moyens de l'inventer le cinéma. Mais philosophiquement, il n'a pas voulu. Il a voulu faire une image individuelle, et pour la voir, pour en profiter, il fallait payer. Lumière lui dit, on fait sortir l'image de cette boîte et on la projette sur grand écran. Donc on fait du cinéma, cet art collectif que nous connaissons. C'est ce dont les gens avaient besoin à l'époque, puisque ça a été un grand succès. Et c'est ce dont nous avons toujours besoin, même si aujourd'hui, il est possible de voir des images animées, des films, sur tous les supports, y compris sur un iPhone, sur une montre, sur ce qu'on veut. N'empêche que rien ne remplace le spectacle collectif de la salle de cinéma. Donc ça, Lumière l'invente, ça s'appelle le cinématographe. Et c'est fait. Dès qu'il le fait, c'est parfait. Le cinéma tel que nous le connaissons aujourd'hui était là, intact, d'emblée. Il y a beaucoup d'inventeurs avant Lumière, il n'y en a pas un seul après. C'est fini. Avec lui, la période de l'invention s'achève. Et ça a toujours été plus ou moins contesté. Alors pour ne pas que ça le soit, moi je dis tout simplement que Lumière est l'inventeur du cinématographe Lumière. On est vraiment dans le cheval blanc d'Henri IV. Et puis ensuite, il y a la période de la création, de l'art cinématographique. Et là, pauvre Lumière, même chose. On considère Pathé, Gaumont, plus tard évidemment Griffith & Co., Georges Méliès, bien entendu, comme étant les vrais inventeurs de l'art cinématographique. Chose d'ailleurs que Lumière a dit lui-même. Et il avait tort, parce qu'il était modeste, il était humble. Or, ce film est destiné à montrer que Lumière, puis ses opérateurs, sont les vrais premiers cinéastes du cinématographe. Et ce qu'ils ont fait du cinéma, de manière quasi exhaustive, pas complètement, parce que Méliès arrive juste derrière et va donner au cinéma une deuxième tradition qui est celle du réenchantement du monde, de l'émerveillement, de l'illusion, de la magie, du théâtre, quand Lumière, lui, est d'emblée dans l'enregistrement du réel. C'est-à-dire que Lumière, c'est Rossellini, c'est Bresson, c'est Renoir, c'est Kechiche, c'est Maurice Pialat. Quand Méliès, c'est Fellini et Hollywood.
Alors, vous proposez au public de voir ou revoir une centaine de films restaurés parmi les 1422 réalisés par les Lumières et leurs opérateurs. Comment avez-vous opéré cette sélection dantesque? Vous dites que vous en êtes le compositeur.
Non, j'ai dit que le programme avait été composé
par vous.
Voilà, parce que c'est un film Lumière. D'abord, ça me permet de dire que c'est génial. Voilà, c'est admirable. Donc je ne parle pas de mon film, mais de leur film, des films de Louis Lumière, qui était lui-même un très bon cinéaste, et des opérateurs qu'il a formés, et qui étaient parmi eux très bons, et d'autres l'étaient un peu moins. Et quand vous dites « voir ou revoir », je pense que ceux qui nous écoutent, dans l'absolu, personne n'est capable de citer plus de 3 titres du cinéma de Lumière, c'est-à-dire « La sortie des usines Lumière », « L'arroseur arrosé », et l'arrivée du triangle à la Ciotat, peut-être le goûter de bébé, en tout cas 7, 8, peut-être 10 titres. Et en effet, comme vous dites, il y en a 1422 plus les hors-catalogues. Et le choix a été très rapide, si j'ose dire, parce que à faire pour fabriquer ce film, parce qu'en fait je le faisais depuis 20 ans. C'est-à-dire que c'est des films que je connais très très bien, que j'avais l'habitude de montrer, et qui donnaient et qui donnent le sentiment de ce que fut l'aventure du cinéma de Lumière, par un classement thématique, par un classement esthétique et par un certain esprit qu'il fallait que ces films illustrent pour dire celui des Lumières. Et mais il y aurait 3, 4, 5 longs métrages encore à faire.
Justement, on disait tout à l'heure que les films Lumière ne sont pas dus qu'à Louis Lumière, mais aussi à des noms qui sont, il faut bien le dire, complètement oubliés, en dehors des spécialistes, hein, Alexandre Promio, Gabriel Vert, Constant Girel. Est-ce qu'on peut dire que chacun a vraiment sa patte et qu'on voit à travers ça ce que va être la diversité des auteurs du cinéma?
Oui, oui, c'est pas faux, ça. C'est-à-dire que Lumière, ça c'est très passionnant. D'abord, un, que celui qui est l'inventeur soit aussi un praticien. C'est-à-dire que celui qui a inventé la musique, d'abord on ne sait pas qui c'est, mais est-ce qu'il était un grand musicien ? Là, celui qui invente le cinéma est un grand cinéaste. Et puis il forme des gens. Vous avez cité trois noms, parmi les plus brillants, Gabriel Vert est un brillant, brillant, brillant cinéaste, et qui s'est révélé d'ailleurs aussi brillant photographe plus tard, brillant autochromiste. Et Lumière est à la fois, c'est comme si Jack Warner était aussi John Ford. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il est patron de studio, il dirige une armée d'opérateurs, et puis lui-même il fait des films. Et il les a formés, et ensuite chacun s'est exprimé de manière la plus féconde. Et Lumière s'est aussi révélé quelqu'un d'assez ouvert, parce que il les a laissés faire. Il a pris les films. Quand, en effet, Alexandre Promio invente le travelling, qu'on appelait à l'époque un panorama, et dont d'ailleurs, même si la légende dit qu'il l'a fait à Venise, d'autres opérateurs avaient fait des tentatives déjà de poser la caméra sur un bateau qui se déplaçait, créant ainsi un mouvement inédit sur l'écran. Lumière prend le film, l'accepte et dit c'est formidable et demande aux autres opérateurs de le faire. Puisque dès qu'un film avait du succès, on le recommençait à l'infini. Des arrivées du train en gare 2, film qu'a fait Louis Lumière, c'est un film assez tardif d'ailleurs, hein. Ça n'est pas du tout l'un des premiers films, comme c'est souvent dit, mais il y a beaucoup d'erreurs et de clichés dans l'histoire Lumière, mais du coup ils en ont refait beaucoup. Il y a beaucoup d'arrivées du train, il y a beaucoup aussi de départs de train, enfin il y a des films absolument admirables qu'on n'a pas pu mettre là, parce que l'idée c'était de faire un film d'une heure et demie, c'est-à-dire de faire que les gens puissent aller au cinéma voir des films Lumière. Avec des films Lumière, on a fait un film Lumière. À l'époque, c'était des séances d'une demi-heure avec une dizaine de petits films de 50 secondes. Et là, on a permis à Lumière de retrouver les spectateurs, ce qui est la première fois depuis 120 ans.
Thierry Frémaux, merci beaucoup vraiment d'avoir été avec nous dans Flashback. Je rappelle que Lumière, l'aventure commence, est dans les salles depuis le 25 janvier. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Flashback sur Séance Radio.
Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran.
Toute l'actu des grands classiques du cinéma.
Bientôt, les films vont être sonorisés.
Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr écouter l'émission en podcast sur séanceradio.com, SoundCloud et iTunes. Antoine, on se donne rendez-vous le lundi 6 mars pour un nouveau flashback.
I can't wait, comme disent les Américains.
Voilà, on ne pouvait pas mieux conclure. Merci beaucoup, chers auditeurs, et à très bientôt donc sur Séance Radio.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.